national, à l'échelle internationale, on fait un peu tout, on essaye un peu de changer des médias classiques en étant plus jeune. Et aujourd'hui, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous sommes 10.
L'émission est réellement bien préparée, comme vous pouvez le voir.
Exactement. Et on va faire un petit tour de table. Je te laisse commencer.
Bonsoir à tous. Moi, c'est Antoine. Je suis élève en terminale ES au lycée du Diois.
Alors, bonsoir, moi c'est Atek Antoine, j'ai 17 ans et je suis 18 pardon. Je suis en terminale littéraire également au lycée du Diois.
Bonjour à tous, moi c'est Alexandre en terminale S au lycée du Diois et puis bon à la technique derrière avec Liam.
Bah bonjour du coup, moi c'est Liam, première ES, lycée du Diois, à la technique. Je passe le micro à Alyosha.
Non, c'est bon, j'ai mon micro. Salut, moi c'est Alyosha, je suis en terminale L.
Salut tout le monde, bah moi c'est GG le druide, toujours là, toujours le même. Et j'aimerais juste rectifier le présentateur, on n'est pas 10, on est 9.
Il est ES, donc ça se tient.
Salut, moi c'est Manon, je suis en terminale ES et j'ai 18 ans.
Bonsoir, moi c'est Adèle, j'ai 17 ans et je suis en terminale L.
Moi c'est Baptiste, j'ai 16 ans et je suis en terminale ES.
Alors, on a préparé deux sujets avec des questions pour finir l'émission. Alexandre, je te laisse présenter les sujets et nous faire une mise en abîme. Exactement.
Le premier sujet concernera les nouvelles réformes que le président Macron a proposées sur la réforme du bac.
Mais pas que, sur l'éducation en général.
Voilà, de l'éducation générale, sur Parcoursup, sur l'accession aux études supérieures, du coup. Et le deuxième sujet qu'on abordera, ça sera sur... la sexualité, l'infidélité sur Internet avec les nombreux sites de rencontres et d'infidélité du coup.
Voilà. Donc, on va commencer directement sur le sujet d'Emmanuel Macron. Alors on va un peu détailler les changements qui vont s'opérer donc bientôt. Il n'y a pas de date qui ont été fixées, il me semble, pour l'application des réformes du lycée. En tout cas,
je crois que pour le nouveau bac, c'est 2021.
2021.
Ah oui, okay. Elle serait, les futures secondes.
Ah oui, d'accord, c'est pour
les prochains secondes.
C'est pour ceux qui sont en 3e actuellement et qui passeraient du coup leur bac pour l'année 2021.
Ok. Alors, déjà, ça partira sur une fin des filières économiques et sociales, scientifiques et littéraires, qui sera remplacée par un tronc commun et des disciplines qui seront choisies dès la première, donc des disciplines majeures et mineures. Donc en terminale, le tronc commun sera sport, histoire géo, anglais, enfin LV1, LV2, maths et philo. Et à la place des filières, en fait, ce sera des combinaisons entre deux matières, donc par exemple histoire et économie ou philosophie et français. Finalement, ça ressemble un peu, mais il y aura 8 à 10 combinaisons, donc ce sera un peu plus, plus spécialisé selon les profils des élèves.
Et plus de choix peut-être aussi.
Voilà, exactement. Et les matières mineures seront en lien avec les majeures. Donc, autre changement important, ce sera des années en semestre et non en trimestre comme aujourd'hui. Le bac ne sera plus composé que de 4 épreuves. Donc, ce sera les deux matières majeures choisies. La philosophie et un grand oral style TPE que nous, on a eu, travaux personnels encadrés, qu'on a en première. Et un grand changement également, ce sera la fin des rattrapages. À la place, donc pour tous les élèves qui auront entre 8 et 10 de moyenne au bac, leur dossier sera jugé par un jury qui étudiera leur dossier scolaire et qui dira en fonction si l'élève peut ou non accéder aux filières après-bac, post-bac. Et Alexandre, je te laisse présenter du coup Parcoursup.
D'ailleurs, pour accéder aux études supérieures, ça a changé cette année après le gros couac de l'année passée. Donc l'année passée,
rapidement, au couac, c'était 10 000 lycéens qui se sont retrouvés donc sans formation à la rentrée.
À cause d'APB.
À cause d'APB, voilà.
Parce que justement, il y a eu un problème. APB, on faisait des vœux sur APB jusqu'à 24 vœux. Et à partir du moment où le vœu le plus haut sur notre liste était validé, eh ben, c'était celui-ci qui était sélectionné. Je résume grossièrement parce que maintenant, aujourd'hui, c'est plus ça. On a 10 vœux. Avec une histoire de sous-vœux, s'il y en a qui voudront faire des remarques là-dessus, on en parlera, mais en diagonale, c'est, c'est les 10 vœux. Et il n'y a plus de classement, en fait. Et au fur et à mesure, on peut choisir 2 vœux, 2 réponses, on dit oui. Et au fur et à mesure des réponses qui viennent, donc tout au long du mois de mai jusqu'au mois de juillet, avec une pause au bac, on enlève l'un des 2 vœux pour en choisir un autre. Donc c'est un système...
Sélection,
de sélection où les facs vont pouvoir dire un nom catégorique Et c'est la grande différence. Il y a du coup une nouvelle sélection que APB ne mettait pas. Enfin, où c'était des tirages au sort, donc c'était un point négatif aussi. Donc,
selon les avis. C'est vrai que cette sélection fait quand même beaucoup débat, comme aujourd'hui ça tombe bien. On est dans une journée de mobilisation, grève. De grève contre Parcoursup, notamment d'élèves et de professeurs, majoritairement basés à Paris, mais c'est appelé dans toute la France. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On est quand même les premiers concernés. Alyosha, je te laisse démarrer.
Alors bon, c'est très intéressant d'avoir refait des réformes pour permettre à des jeunes de pouvoir choisir plusieurs filières différentes, surtout en fonction de ce qu'ils préfèrent et surtout de ce qu'ils vont préférer faire après le bac. Mais bon, est-ce que ça va peut-être pas compliquer les choses, parce que on entend toujours dire que le bac qu'on connaît maintenant aujourd'hui est un peu trop bas au niveau de ce que des attentes des professeurs, même des parents, d'élèves en général. Et est-ce que rehausser le niveau à ce point-là en offrant moins de matières à étudier pour le bac, est-ce que c'est mieux?
Rehausser le niveau dans quel sens?
C'est-à-dire que, par exemple, si tu mets moins de matières à apprendre pour le bac, forcément le niveau sera plus haut.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on va avoir des exercices qui seront un petit peu. Voilà. Si on apprend plus. Enfin, si on a plus d'heures dans une matière dans une année, on aura forcément.
Oui, moins de matière, mais matière plus complexe. Manon.
Mais il n'y aura pas moins de matière enseignée, c'est juste qu'il y aura un contrôle continu, mais sinon il y aura le même nombre de matières.
Le contrôle continu, en fait, c'était une idée qui a été proposée initialement, mais ça a changé. Ça sera plus des examens en cours d'année, en fait, à la fin du premier semestre, par exemple.
Ah oui,
c'est partiel, en fait, du coup.
Un peu du style partiel, oui. Donc voilà, donc c'est vrai que ça augmente un peu le niveau, mais ce qui est vachement contesté, c'est surtout la sélection à l'université. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien, Antoine?
Moi, je suis pas sûr qu'il y ait une sélection, parce que vous avez dit que la fac pouvait dire non, alors que je ne crois pas que la fac puisse dire non. La fac
c'est
peut
oui
dire
et oui.
Oui et oui, si, exactement.
C'est une façon de dire non. Ça veut dire c'est une façon de décourager l'élève aussi.
C'est pas une façon de décourager l'élève, parce que, enfin, pour moi, ça n'en est pas une, dans la mesure où il faut voir la réforme dans son ensemble et au-delà des vœux de la fac. Qui donne son avis. Il y a aussi toute une procédure pour clarifier les choses, donner chaque débouché de formation, chaque contenu de formation. Et donc la fac est plus là pour accompagner l'élève. Le WICI sert justement à proposer une alternative à l'élève qui voudrait quand même faire une fac, même s'il n'a pas forcément le niveau, pour éviter justement que l'échec de la sélection se répercute à la première année où il y a un gros taux d'échec en licence, par exemple. Et plutôt voilà, d'avoir des parcours après hachés pendant la fac, des parcours un peu chaotiques. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire une sélection dès le début, une sélection franche qui puisse dire à chacun ce qu'il peut faire et dans quelle mesure il peut le faire?
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Antoine,
ouais, moi aussi je suis exactement d'accord avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'élèves que justement après, en allant en fac, ils ont beaucoup de fausses idées justement, et la fac, je pense, elle est apte à juger si l'élève est capable, va être capable selon son dossier, à suivre la formation entière. Et du coup, justement, s'ils disent que oui, si, avec des conditions plus justes, du coup, je pense que c'est beaucoup
ça
mieux.
Ça peut être une économie de temps, une économie d'argent.
Mais
exactement.
Adèle, je voulais réagir.
C'était juste pour deux secondes. Vraiment, je crois que la fac a réellement le droit de dire non. En fonction de l'avis, en fonction de l'avis du conseil de classe, si celui-ci est donc pas favorable, parce que j'ai oublié de le préciser au début, que maintenant l'avis du conseil de classe est primordial, les facs en prennent compte. Et si sur ta fiche à venir, il y a écrit que le conseil de classe est contre, eh ben non, la fac va pas te choisir. Je crois réellement que c'est
Alexandre.
Ça.
Antoine,
excusez-moi. Moi, je suis quasiment sûr qu'elle puisse pas dire non. Et même si la fiche à venir était si importante, c'est comme par exemple, il y a des lettres de motivation. Alors on dit que ça va être une façon de trier les élèves, mais il y a une telle quantité de dossiers en si peu de temps pour les facs qu'elles n'auront pas le temps d'étudier chaque dossier au cas par cas, etc. Donc le système va être le même, en fait, surtout l'information qui change. Il y a pas vraiment de sélection à l'entrée. Et quand bien même il y aurait une sélection, ce serait plus, étant donné qu'il y a des alternatives qui sont proposées, c'est pas vraiment une sélection. Ouais. Moi, c'est ce que je pense personnellement.
Je suis quasiment sûr également qu'il n'y aura pas de non catégorique. C'est un oui ou un oui si, mais il n'y a pas d'option négative entière.
Moi, c'est ce que j'ai lu sur Mediapart, donc après bon.
Voilà. Chacun ses sources. Ça... On compare à sa mission. Adèle.
Moi, ce que je trouvais dommage dans ces changements, c'est qu'il avait été question qu'il y ait des changements justement au niveau de... qu'on puisse changer de région pour aller dans d'autres universités, dans d'autres régions. Et il n'y a eu rien par rapport à ça. C'est juste que 15% de sélection des universités sera faite à l'extérieur, mais c'est seulement 15%. Et je trouve ça vraiment dommage dans le sens où le fait de changer de région, de changer d'endroit, ça peut nous faire évoluer, etc.
Ah oui. Donc tu parles de la priorité selon les académies, ouais. D'accord, des habitants, ouais. Au sein de l'académie, c'est vrai que ça peut être...
Oui, parce que nous, par exemple, on est à Dix, là, et on peut seulement être dans l'académie de Grenoble, et on peut pas aller jusqu'à Lyon, par exemple. Oui, c'est beaucoup plus restrictif, et c'est hyper difficile. On doit faire des dérogations, et des trucs comme ça.
C'est vrai. Alyosha.
Bah, je voulais ajouter un truc qui et que j'adore vraiment, c'est que maintenant, pour choisir les candidats, quand on envoie un dossier, souvent on met les bulletins de l'année de première et des deux premiers trimestres de terminale. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils se basent pas sur des notes, ils se basent sur les appréciations des professeurs. Et c'est ça qui est vachement cool, parce que ça veut pas dire parce que t'es mauvais dans une matière que tu donnes pas de l'effort, quoi.
Ça, c'est ton point de vue, hein, parce que pour tout le monde, je pense pas que tout le monde ait le même avis là-dessus. Hein.
Oui, c'est vrai.
Niveau des appréciations, c'est pas forcément révélateur du niveau de l'élève. Tu peux être un très bon élève, avoir de mauvaises appréciations, et ça va plus te tirer vers le bas alors qu'autre chose. Peut-être parce que justement, le système du lycée n'était pas fait pour toi, et donc c'est pour ça que tu pouvais avoir de mauvaises appréciations, être contre ce système-là, mais avoir de bonnes notes et être totalement apte à faire des études supérieures. Mais si la fac pense que d'après tes appréciations, elle va pas t'accepter, bah pour moi, je trouve pas ça juste.
Oui, mais généralement, quand les profs ils font le conseil de classe, généralement, ils mettent si jamais tu as eu de bonnes notes et si tu es apte à aller en université malgré un comportement déviant ou quelque chose comme ça. Enfin, si tu as un comportement trop déviant, généralement, ils le mettent.
Ouais, bah. Mais faut espérer que ça soit pas aussi un motif de chantage envers les élèves.
Oui,
parce que moi, c'est ce que je crains.
Oui, c'est pas faux. Mais après, si les profs ils mettent des mauvaises appréciations, normalement, normalement, il devrait y avoir une vérification au niveau du.
Mais de qui ?
Bah, justement, ça.
Bah, ça, je trouve que c'est un moyen de chantage. Et en plus de tout.
C'est-à-dire le chantage.
Chantage, ouais. C'est-à-dire que le prof va tout simplement dire à l'élève, bah, tu tiens un carreau pendant l'année, t'arrêtes de faire ce que ton élève déviant, du coup. Et ou sinon, on te dira non pour la formation que tu souhaites faire. Tout simplement, hein, je pense pas que ça soit très compliqué de le.
Ouais, je comprends,
le faire.
Je vois
exactement. Et en plus de tout, je suis pas d'accord sur ce système. Les profs, ils sont là pour nous inculquer éducation nationale quand même. Il y a le mot éducation, donc forcément c'est nos parents qui nous font l'éducation. Mais les profs sont là pour nous enseigner. C'est des enseignants. Ils sont pas là pour après choisir notre avenir. Ils sont pas là. Ils ont pas le côté humain. Donc, ils ont le côté humain. On va pas dire ce que j'ai pas dit. Ils ont le côté humain. Mais ils vont pas forcément traiter tous les aspects du côté humain que t'as. Tu veux faire une formation à la fac de médecine, par exemple, et que tu parais peut-être un peu pédant, un peu toujours sûr de toi, mais s'il faut, les profs, ils vont te dire, lui, il va jamais être capable d'être face à des patients, alors que s'il faut, dans la réalité, ils te connaissent pas. Oui, s'il faut, t'es inscrit dans des s'il faut, t'es à la Croix-Rouge, s'il faut, t'es inscrit pour aider les gens.
Ouais.
Donc, je trouve pas ça, je trouve pas ça légitime. Donc, que ça reste sur des bulletins scolaires.
C'est vrai.
Sur les notes, sur les appréciations, parce que c'est important, les appréciations. J'ai pas dit le contraire, hein, c'est important. Mais que ça reste informatisé quand même. Que ce soit pas forcément que ce soit un avis extérieur qui juge.
Okay. Antoine, tu voulais pas rajouter quelque chose ? D'accord.
Okay. Liam voulait participer sur. Non, bah finalement.
Et sur le rattrapage, vous en pensez quoi du coup ? Est-ce que vous pensez que c'est juste qu'on puisse, à ce niveau-là, donc enlever les rattrapages et à la place mettre un jury ? Personnellement, je me suis dit que le jury n'allait jamais... En général, on va dire que les élèves qui ont entre 8 et 10 au bac, c'est rarement des élèves sérieux. Un élève sérieux en terminale est largement capable d'avoir son bac, je pense. À moins vraiment d'avoir un gros vide, mais un passage à vide. Mais je pense vraiment qu'un élève sérieux peut l'avoir. Donc ce sera souvent le cas d'élèves un peu délicats. Donc rarement un jury va donner un avis positif pour ce genre d'élèves. Donc c'est en quelque sorte supprimer le rattrapage sans forcément de recours après. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Manon ?
Tu disais que voilà, un élève qui était très sérieux, tout ça, pouvait forcément avoir le bac. Enfin, pas forcément, je trouve. Enfin, c'est... Il peut très bien avoir des difficultés, vraiment de grosses difficultés. Je sais pas, avoir une très grosse dyslexie, tout ça, ne pas y arriver. Et pourtant, il sera sérieux, tout ça. Et aussi, par rapport au rattrapage, je trouve franchement que c'est bien parce que c'est pas facile pour tout le monde de parler. Parce que voilà, le rattrapage, c'est un oral. Et c'est pas facile pour tout le monde de parler devant... Devant un jury pendant je sais plus combien c'était 30 minutes ou quelque chose comme ça et voilà du coup enfin
parce que maintenant c'est quoi désolé c'est quoi
c'est un jury qui analyse ton dossier scolaire et d'accord. qui donne ouais, un avis vrai. Favorable ou défavorable
et c'est après, quoi cette histoire d'oral du coup il y a un oral ou pas
ça c'est le rattrapage classique actuellement là si cette année d'accord. on a entre 8 oui. et 10 à notre moyenne au bac on a un rattrapage on a un oral de rattrapage dans la matière qu'on désire.
D'accord, c'est mais vrai qu'il faut rattraper. Espérer avoir eu justement de bonnes appréciations.
Voilà, oui, voilà, c'est ça. Bah,
c'est
après,
pour ça que
c'était
là,
sérieux.
Pour le coup, ces réformes donnent une grande importance aux appréciations.
Et après, je suis pas sûr parce que un oral, c'était aussi une façon de juger. Peut-être que l'élève a justement des difficultés à l'écrit. Mmh. Peut-être qu'il stresse justement à l'écrit. Et peut-être que justement, un oral. Ça le permet, il y en a qui ont plus d'aisance à l'oral et donc c'était aussi une façon de plus les aider.
Oui, on juge un autre aspect.
Ça peut être les deux. Hein.
Oui, et puis c'est pas le cas de tout le monde.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, bon, je sais pas réellement pour tout le monde autour de cette table, ni même dans les lycées en général, mais peut-être que la plupart des jeunes, ils ont plus peur de parler à l'oral qu'à l'écrit.
Mais je pense, parce que je pense que ça se voit plus, mais je pense qu'il y a réellement beaucoup d'ados qui ont peur devant leur feuille. Ils sont là devant une feuille, d'un côté une feuille blanche et d'une autre une feuille où il y a plein de choses écrites. Et ils savent pas aussi, ils ont le vide dans leur tête et pas forcément.
Ils savent.
Alors qu'un oral, on peut parfois se raccrocher à certaines choses qu'on apprend, qu'on a appris, quoi. Alors que l'écrit, je suis pas sûr.
Mais là, on aborde des cas particuliers selon les élèves.
Mais je pense que c'est un point positif, que c'est un autre. Chacun avait un point positif de se rattraper.
Adèle.
Et donc ça, c'est pour mener vers des études supérieures, ce rattrapage ou pas?
Ouais, bah c'est le rattrapage classique, donc qui actuellement, c'est pour.
Non, celui de qui est prévu. Avoir,
Ah, ce sera pour oui ou non, on vous accorde le bac en fait, en quelque sorte.
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir de 8 sur 20, techniquement, tu peux quand même
mais
avoir ton bac.
Alors
si
moi,
tu
je trouve ça un peu bizarre parce que autant redoubler ou faire un vrai rattrapage parce que une personne qui a 8, 9, c'est qu'elle est pas prête aux études supérieures. C'est quand beaucoup de personnes n'ont pas leur première année en université ou ne réussissent pas leur DUT, je sais pas. Et à partir du moment où on passe le bac avec 8-9, c'est difficile de continuer les études supérieures et même de trouver un travail correctement.
Donc tu penses qu'il faudrait supprimer les rattrapages quelque forme?
Non, je pense que les rattrapages d'aujourd'hui sont bien parce que ça fait du travail en plus pendant l'été. Il y a une certaine, je pense que les élèves se rendent compte de leur faute, de ce qui s'est passé dans leur année, alors que le fait de regarder leurs appréciations et leurs efforts, ça peut être, je sais pas, je trouve que c'est pas normal de passer, enfin c'est pas une question de normalité, mais je sais pas comment exprimer mieux mon idée.
C'est vrai que c'est rarement des élèves qui ont eu 18 de moyenne depuis leur 6e qui
c'est pas. Oui, voilà, c'est des
donc c'est vrai que c'est pas forcément je sais pas sur quels critères ils vont devoir juger.
Antoine,
ouais. Ben, moi l'idée que je soutiens et que je trouve ça dommage qu'il ait supprimé, c'est le contrôle continu. Parce que je pense que c'est vraiment la meilleure solution, quoi, le contrôle continu. Pour moi, on ne peut pas juger un élève sur une épreuve dans l'année avec autant de stress. C'est dévié un peu.
Oui, c'est une évaluation plus précise, en tout cas, de l'élève.
Oui.
Sur tout au long de l'année.
Mais tu peux être bon toute l'année. Tu peux être bon toute l'année et te rater ce jour-là parce que justement, tu sais pas gérer ton stress.
C'est vrai.
Parce que l'école nous a jamais appris de gérer nos stress.
Après, les examens font partie de la vie. Et,
c'est vrai.
C'est justement pour t'entraîner, je pense. Hein. Le bac en soi, si t'as réellement bossé toute l'année, ça m'étonnerait que tu fasses un vide sur chaque matière. Donc je pense que tu l'auras quand même, peut-être pas avec la mention que tu voulais, mais tu l'auras et ça t'entraîne réellement du coup pour l'année d'après avec tes partiels.
Antoine ?
Mais le problème qui est soulevé avec le contrôle continu, c'est justement que comme il commence à y avoir des disparités de niveau entre les lycées, ça va faire des bacs au rabais pour certains, alors qu'il y aura de vrais bacs. Et donc, non seulement les gens seront discriminés selon leur adresse ou leur université, mais en plus de ça, ils auront des problèmes avec leur bac, c'est-à-dire qu'un bac n'en vendra plus un autre. Ouais. Alors, autant supprimer le bac dans ce cas-là.
Donc une dévalorisation du bac complètement, quoi, de l'examen.
Non, pas de l'examen complètement, de certains, en fait. Oui. Si on fait un bac au contrôle.
Bah, c'est vrai qu'en fait, après, on ne peut plus vraiment savoir qui a un bac légitime, entre guillemets, et un bac... fossé un peu, enfin genre.
Bah oui, en fonction du monde du lycée, oui, c'est, bah, ça va faire une espèce de ségrégation encore, déjà qu'une ségrégation un peu géographique. Ça va encore plus aggraver le cas de certains qui se retrouvent avec un bac inférieur à celui d'autres élèves qui viendront des centres-villes, etc. Donc.
Mais les contrôles continus, ce sera les mêmes pour tout le monde.
Bah en fait, c'est vrai que
non, parce qu'une note dans un lycée, on ne vaut pas une note dans un autre lycée, donc forcément.
Oui, mais là, c'est au professeur de s'adapter. Et puis aujourd'hui, il y a déjà cette discrimination. Enfin, t'as déjà, quand t'es à Henri IV à Paris ou à Condorcet, enfin, t'as un niveau, quand t'arrives le jour de ton bac, t'as un niveau qui sera bien plus supérieur à celui d'une ZEP. Hein,
oui, mais tout le monde aura le même bac. Tout le monde aura un bac, le baccalauréat officiel d'une certaine filière, qu'il soit Henri IV ou une ZEP. Et, alors que là, il y aura un bac ZEP, entre guillemets, et un bac pour d'autres lycées. Chaque lycée aura son propre bac. Donc, il y aura même plus cette... Il y aura même plus cette égalité de niveau.
Mais le correcteur, que ça soit en fin d'année sur un examen, un correcteur, il le verra de toute façon la différence sur la copie.
Oui, mais ils auront le même diplôme.
C'est déjà le cas.
Quand même mieux qu'ils aient le même diplôme. Justement, puisqu'il y a des inégalités, autant éviter de les creuser en faisant des bugs différents selon les élèves.
Bah, qu'il faudrait alors que. C'est pas une mauvaise idée. S'il y avait eu un contrôle continu, il aurait fallu qu'il soit corrigé par un professeur d'un autre établissement.
C'est ça, parce que là ça revient à un bac. Oui, mais comment faire? Un des problèmes du bac, c'est que c'est assez complexe comme organisation, et justement on va pas envoyer des copies d'un lycée à l'autre. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire ça à chaque contrôle.
C'est pas possible.
Bah oui, mais...
Dans ce cas-là, autant supprimer le bac. Enfin, si on arrive à des choses comme ça.
C'est vrai que les examens nationaux en cours d'année, c'est vrai que c'est déjà plus égalitaire entre chaque lycée, et ça permet de garder l'identité du bac. Plus personne à parler sur ce sujet.
Ouais, juste, je vois un avantage, pour continuer sur le contrôle continu, je lui voyais un avantage dans le sens où les classes auraient été plus strictes, plus calmes. Je vois qu'il y a plein de classes pour qui c'est difficile et tout. Je vois aujourd'hui une dégradation, surtout pour les collégiens. On en entend beaucoup parler dans notre établissement, en plus cette année. Et le fait qu'il y ait un contrôle continu, je pense que ça apporterait beaucoup de sérieux.
Une dégradation des collégiens, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de profs dire que plus les générations passent, plus les élèves sont moins respectueux des profs, etc.
Après, on donne plus d'importance aux appréciations, ça peut donner le même résultat au final. On parle en termes de discipline, les élèves sont conscients que leurs appréciations sont importantes, ils peuvent adapter leur caractère en fonction, enfin leur caractère, leur comportement.
Mais c'est pas aussi important que si c'était un contrôle continu.
Mais dans ce cas-là, ce que tu soulèves, c'est plutôt un problème de niveau du bac, parce qu'aujourd'hui, des gens qui ont 10 de moyenne dans un lycée lambda... qu'on moins 10 de moyenne justement dans un lycée lambda, je pense pas qu'il y en ait que sur la majorité des cas. Donc la plupart des gens n'ont pas besoin de se conformer pour le bac, n'ont pas besoin de changer leur attitude. Et c'est peut-être plus par contre au niveau des appréciations, comme on le disait. Mais s'il y a un problème de comportement, je pense pas que ça se réglera par un examen. Justement, c'est un peu ça. Enfin, c'était un peu ça.
Il y a plus de travail qui est fourni aussi. Mais c'est pas que les appréciations, c'est un contrôle continu, c'est aussi les notes.
Oui, c'est une autre, mais c'était un peu ça la beauté du bac. C'était quelqu'un qui pouvait ne pas travailler toute l'année, ne rien faire, même de pas venir en cours et réviser, et le jour de l'examen réussir.
Oui. Même sans réviser, le talent.
Oui, sans réviser. Mais
ça arrive, moi j'ai un prof qui m'a dit ça.
Oui, ça arrive. Bah, justement, c'est peut-être ça la beauté du bac. Justement. Comme Alexandre disait, il y a peut-être des profils qui ne sont pas adaptés au lycée et qui peuvent s'exprimer le jour du bac,
oui, c'est vrai.
Alors que toute l'année ils seraient oppressés
par le système.
Voilà,
c'est pour ça peut-être que la réforme. Même si elle ne prend pas en compte le contrôle continu, est peut-être plus intéressante.
Oui,
mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que le système éducatif français a besoin d'être réformé parce qu'il est plus haut niveau par rapport aux pays étrangers, surtout par rapport aux pays asiatiques. Il y a un grand fossé qui s'est créé ces dernières décennies, et c'est important que la France reste à un niveau élevé parce que c'est une grande puissance. Mais aussi, je pense qu'il y a peut-être que vous allez me contredire, mais je crois qu'en France, il y a un grand niveau, il y a une grande différence entre le lycée et les études supérieures. Les études supérieures en France restent très bonnes par rapport aux pays étrangers. Quand on fait des études de médecine, en France, on est très bien, très bien au niveau international, au niveau des ingénieurs aussi.
C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de décalage entre les rattrapages qui vont être proposés et les études supérieures.
Oui, et c'est une refonte globale, je pense, qui est intéressante.
Ce que tu soulèves, c'est un peu un problème, c'est justement le problème de sélection dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que comme la sélection ne se fait pas à l'entrée du lycée, mais se fait au cours de l'université, ceux qui ne sont pas forcément aptes à être là ou qui ne sont pas forcément bien orientés, eh bien, se retrouvent. Ouais.
Il y a un problème d'orientation, je pense.
Oui, tout à fait.
À l'époque de nos parents, je crois qu'il y avait. Moi, quand j'entends ma mère, elle me disait, mais nous, en arrivé au lycée, c'était déjà quelque chose de bien. Avoir son bac, même si on n'avait pas de métier au bout, c'était quand même une gratification. Aujourd'hui, le bac, j'ai envie de vous dire, je crois qu'il ne sert à rien. Quoi, donc,
tout le monde peut l'avoir maintenant.
Bah, c'est ça, quoi. Si tu bosses une année de terminale un peu sérieusement.
Ça se voit au taux de réussite. Hein,
Le taux de réussite.
De plus, le bac, il n'est même pas compté dans les sélections.
Oui, donc c'est une réforme dès le collège qu'il faut entreprendre. Dès le brevet, c'est une réorientation à partir de ce point-là qu'il faut faire. Même si au lycée, oui, le système ne convient pas à tout le monde après. Il faut bien être dans le système pour le faire exploser.
Exactement. Bon, on va passer au deuxième sujet.
Ouais.
C'était très intéressant en tout cas d'avoir l'avis un peu de tout le monde. On va parler de l'amour et la sexualité sur Internet. Donc, quand les nouvelles technologies se mélangent à l'amour, on va commencer par plusieurs statistiques et on va aborder pas mal de choses. Alors, tout d'abord, plus de 2000 sites ou applications sont recensés. Un Français sur 5 a déjà consulté un site de rencontre. 28% des 18-25 sont inscrits sur un site ou une appli de rencontre. Donc, chez les jeunes, c'est surtout les applications comme Tinder, notamment, qui marchent bien, en tout cas. Mais seulement un Français sur deux ayant déjà consulté un site l'avoue à son entourage. Il peut y avoir un peu un sentiment de honte, que je ne comprends pas vraiment, pour le coup, d'adopter ce genre de pratique. Et certains critiquent le côté virtuel de la chose, de la rencontre et la dangerosité qui peut en émaner, mais ça c'est quand même un peu plus rare selon les sites. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que le côté virtuel de l'amour peut un peu briser certains codes et être négatif ? Alyosha ?
Ouais, c'est vrai que quand on parle de ce genre de sujet, on tombe tout de suite dans le truc classique, c'est-à-dire j'ai mis une fausse photo de profil où j'ai pris une photo que j'ai piquée quelque part sur Internet, une photo d'une très belle femme ou d'un très bel homme, et ça y est, dès que tu te retrouves face à la personne en face, bah, c'est pas du tout la personne que tu avais vue.
Là, le culte du corps, quoi.
C'est ça, parce que même si on peut parler, on peut discuter tranquillement avec cette personne sur Internet, quand on a une photo d'une personne très très belle, on a tout de suite un petit bug de cerveau qui dit « Hey, je préfère rencontrer cette personne plutôt que de chatter avec elle. » Parce que bon, voilà.
C'est vrai, il paye.
Le corps au détriment de l'esprit, j'ai envie de dire.
Exactement. Oh, très belle phrase.
Ouais.
Très belle phrase. Antoine ?
Mais ça marche des fois. Et il faut.
Oui. Peu souvent, on a 9% des couples sont issus de sites de rencontres. Par rapport au nombre. Un Français sur 5 a déjà consulté un site, donc 20%.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution ?
Oui.
C'est-à-dire une évolution.
Est-ce que c'est pas en train de changer ? Est-ce que c'est pas de plus en plus grâce aux sites de rencontres ?
Bah, de toute façon, c'est obligé d'y avoir une évolution. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de sites de rencontres. Donc,
oui, non, mais toujours. Est-ce que c'est pas en permanence en évolution ?
10%, c'est 10% de tous les couples. Ou ceux qui sont
De tous les couples. Ouais.
Ah, mais c'est énorme.
C'est pas mal, attends.
C'est pas mal, mais en sachant que 20% de tous les Français.
C'est-à-dire un Français sur 5 est sur un site de rencontre. Alors que 10% de la population en couple est issu d'un site de rencontre. Bah, donc moi je trouve ça conséquent.
Ah, tu trouves que c'est conséquent ?
Ah oui.
Ah oui, ouais, c'est énorme.
C'est beaucoup.
Moi je trouvais ça un peu.
Sachant qu'il y a une personne sur 5 qui est inscrite sur un site de rencontre, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de résultats. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de résultats.
C'est l'aventure moderne finalement.
Il nous faudrait M. Chiron pour calculer plus précisément, mais je pense que c'est beaucoup.
C'est beaucoup, je trouve aussi.
Adèle ?
Moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça, mis à part ce que disait Alyosha. Mais bon, ça, je crois que ça arrive de moins en moins. C'est surtout un truc. Enfin, on connaît l'arnaque, quoi. Mais je trouve que c'est pas dérangeant dans le sens où si ça marche bien, et bah, tant mieux pour les personnes qui trouvent l'amour et qui étaient seules avant. Et puis voilà. C'est une évolution. C'est plus quand on se rencontre en vrai, ça change. Mais Si la finalité est bien.
Oui, c'est, ça peut être un moyen pour les personnes plus timides de rencontrer l'amour. On peut après évoquer un type de site qui va faire un peu plus polémique. C'est des sites qui se spécialisent dans l'infidélité et qui promettent l'anonymat à tous ceux qui s'y inscrivent. Glidden, c'est le site le plus connu dans ce domaine avec 3 millions d'inscrits. Et le site s'est retrouvé en procès après avoir été accusé par des associations familiales catholiques d'incitation illégale à rompre les vœux du mariage. Donc la polémique est partie d'une affiche avec une pomme croquée et un slogan Glidden, le premier site infidèle pensé par des femmes. Et selon eux, ils respectaient simplement la liberté d'expression. Alors, est-ce que vous pensez que ça pose un problème moral de faire un business sur l'infidélité?
Quand ton slogan c'est tromper son mari, ce n'est pas la fin du monde, ça force à la polémique. Et c'était le but. C'était le gros bad buzz qu'ils cherchaient. C'était à ce que les médias en parlent. Donc, c'est réussi après.
Manon ?
J'ai pas bien compris le contexte en fait. Genre, en fait, c'est des gens qui sont mariés et qui vont sur un site d'infidélité.
Un site spécial.
Mais pourquoi ils vont sur un site spécial et pas tout simplement sur.
Pour avoir de l'anonymat en fait. C'est justement cet objectif d'anonymat pour éviter de se faire.
Tu peux croiser. Tu peux regarder les photos.
Tu pourrais justement croiser ta femme.
C'est ça exactement. C'est faire griller. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment juger ça, Antoine?
Vous parlez d'anonymat, mais je suis. Je crois qu'il y a un site il y a 2 ans aux États-Unis qui s'est fait pirater avec 2 millions de comptes qui ont été dévoilés. L'anonymat est toujours relatif sur Internet.
C'est vrai, ouais, exactement. Ouais. Après, c'est un anonymat qui est promis, mais sur Internet, on n'est jamais sûr de rien en soi. Mais donc, je repose ma question. Antoine, vas-y.
Alors, moi, je pense que quand une femme, par exemple, ou un homme d'ailleurs, cherche ce genre de site, c'est qu'il est déjà dans l'idée de tromper son conjoint. Du coup, je vois pas l'incitation, peut-être elle est dans la pub, oui, mais c'est pas en voyant. Je pense que c'est une personne sans avoir envie, c'est pas en voyant ce genre de sanglant de slogan qu'elle va se dire je vais aller tromper mon conjoint.
Comme ça, un bon matin dans le métro, tu vois l'affiche, tu dis j'y avais pas pensé, c'est une idée.
Après, peut-être mais si, que des personnes qui doutent de leur relation ce genre de publicité peuvent les faire basculer.
Ça confirme leurs doutes en fait.
Ils se disent je suis pas le seul dans ces cas-là.
L'inconscient, c'est l'inconscient.
Et après si ça devient peut devenir finalement après une sorte de mode aussi
de tromper. Oui, c'est ça. Ça peut être une mode, mais après de juger quelque chose comme ça, quelque chose comme l'amour, c'est quand même assez délicat. Il y a pas de.
C'est pas l'amour là. Du coup, c'est l'incitation qui est jugée quoi.
Justement. Ouais.
C'est le site qui est accusé.
C'est la fin de l'amour, ouais. Il y a ma raison, c'est la fin de l'amour.
Si le mal gardé, c'est pas forcément la fin de l'amour, du coup. Hein. Parce qu'il peut rester amoureux et tromper sa femme. Enfin, Adèle.
Moi, je trouve que ça montre un vrai problème social aujourd'hui, parce que c'est quand même la première chose qu'on apprend dans nos relations, c'est de pas tromper la personne avec qui on est, quoi. C'est... Et là, maintenant, on incite à faire ça. Enfin, on n'incite pas, je sais pas, d'après Antoine. Mais voilà, c'est... Il y a une dégradation claire. Quoi.
Après, eux, ils ont juste surfé sur ce phénomène pour pouvoir se faire de l'argent. Hein. Glidden,
oui, clairement, quand tu vois Mythique, les PDG Mythique et tout, qui étaient très riches. Ouais.
Mais de toute manière, le tromper son conjoint depuis les sites de rencontres et même avant, c'est déjà très présent. Après, la question morale qui se pose, c'est vraiment, comme tu le dis depuis tout à l'heure, est-ce que se faire de l'argent sur ce phénomène, c'est...
moralement juste.
Voilà,
bah ça c'est ce qu'on peut se demander.
Je pense que personne n'a réellement la réponse, c'est qu'une question de point de vue.
Voilà, c'est ça, c'est selon les points de vue. C'est pour ça que je voulais un peu avoir les points de vue, mais c'est vrai que c'est une question
c'est dommage de se faire de l'argent sur l'amour.
Oui.
Sur l'amour,
à la fois, c'est une question complexe. Le faisait déjà.
Oui, mais ils le faisaient différemment et eux ils créaient l'amour. Ils essayaient de créer l'amour.
D'ailleurs, qu'il y a même
personne sur un site de rencontre cherche vraiment l'amour et pas juste du physique.
Ça dépend. Oui. Ça dépend des sites. Par exemple, si tu parles de Tinder, par exemple, Tinder, ça a vachement dévié d'ailleurs, passé plus sur des relations sexuelles plutôt que de l'amour. Mais sur les sites où des personnes payent spécialement, ce sera pour avoir des relations sérieuses après.
Après, en tout cas, ça dénote que l'amour ces dernières années, c'est dégradé quoi. Enfin, c'est triste de voir qu'aujourd'hui on est obligé de passer encore une fois par son écran pour pouvoir trouver quelque chose
C'est
évolution.
Depuis qu'on est petit, on nous met dans une façon de penser qui nous dit qu'on trouvera un jour la bonne personne, le prince charmant, comme dans les Disney par exemple.
Je suis pas d'accord.
Le problème, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement croire en ce mythe? Je pense qu'il a juste été créé Et l'extension aujourd'hui, c'est les sites de rencontres.
Mais tu dis qu'on pense ça quand on est petit, sauf que c'est la société qui évolue. Parce que avant, quand un conjoint ou une conjointe trompait l'autre, c'était impensable. Enfin, c'était pas normal. Mmh. Tu dis que c'est
plus délicat que ça. Ça dépend en fait. Si la femme trompait son mari, c'était vraiment mal vu.
Voilà. Oui.
Mais,
oui, c'est vrai,
mais l'inverse
plus
était assez courant.
Alors que là, c'est justement, c'est justement été créé par des femmes, c'est ça. Glidden,
oui,
je sais pas si on a.
C'est par des femmes. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est.
Je vais pas sur la liste.
C'est normal. Mais après, elles ont autant le droit à l'infidélité que les hommes. Il n'y a pas de différence sur
oui,
ça.
Là-dessus, oui, là-dessus.
Vas-y,
oui,
Antoine.
Moi, bah après, peut-être que justement, c'est un petit retour en arrière. Justement, par exemple, dans les années 70, on arrivait très bien à différencier le sexe et l'amour. Il y avait on peut très bien être amoureux. Je pense qu'il y a des personnes très, très ouvertes d'esprit, justement, qui arrivent à dissocier ces deux choses. On peut très bien avoir l'amour et avoir une envie sexuelle avec quelqu'un d'autre. Et c'est pas forcément... Il y a des personnes qui considèrent pas ça comme trop. Enfin, je dis pas que c'est mon. J'arrive à comprendre justement, moi, à très bien comprendre justement ces personnes qui peuvent différencier le. Qui peuvent être amoureux et justement et avoir envie sexuellement d'autres personnes.
Ouais, c'est vrai, ça peut être deux choses à différencier. Voilà.
Mais après, c'est un choix qui doit être assumé parce qu'il faut pas oublier qu'on est parti là sur le fait que. Enfin, sur un site de rencontre en anonymat, hein. Là, c'est plus la même chose. Ok, que les gens assument d'une part les sexualités, d'une autre part l'amour, mais il faut pas que ça soit caché, quoi. C'est ça le problème.
Oui, il faut que ça soit convenu, vers une moralité entre les deux personnes, quoi.
Sur Mythique, par exemple, pour parler de d'un site un peu sérieux.
J'adore leur
pub, je sais pas, mais l'amour, c'est quand même bizarre. Liam, peut-être que c'est l'évolution, mais comment tu veux créer quelque chose de psychique en toi juste en voyant une photo, juste en écrivant des messages? C'est pas ça. Enfin, pour moi, je pense pas que l'amour soit ça. Peut-être pour toi, c'est maintenant, mais bah voilà. Donc, c'est bizarre. Donc, c'est plus un effet de mode qui va sûrement durer. Mais
on peut parler d'attirance, c'est pas d'amour après.
Oui, voilà, c'est ça. Je rejoindrai plus Adèle sur ce point. C'est-à-dire que l'effet de mode. Je ne partirai pas là-dessus parce que les sites de rencontres, ça fait déjà un petit bout de temps, je pense qu'ils existent et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là.
Oui, puis
je ne sais pas si c'est réellement l'évolution, mais c'est juste la suite logique des choses. Je veux dire, Internet, tout devient plus rapide, tout devient plus facile.
Pas logique.
Après, c'est surtout un moyen pour les personnes timides. D'avoir leur possibilité aussi d'avoir des relations amoureuses. Toi, t'es à l'aise et donc c'est assez simple pour toi, donc de face à face, de créer quelque chose de psychique. Mais pour une personne qui a du mal avec ça, ça peut vraiment être une solution.
Donc je trouve ça bizarre parce que je pense que ça naît d'un regard, ça naît d'un sourire, ça naît d'une complicité dans ce que tu fais. Non, mais je veux pas être fleur bleue, mais c'est ça l'amour, non? Enfin, peut-être que je me trompe sur ce que c'est, mais je crois que c'est ça, c'est voir, c'est toucher quelqu'un,
Mais alors,
tu peux rencontrer.
On peut être séduit par les cris d'une personne, comme les cris.
Ouais. On parle pas tout en même temps. Vas-y, Adèle,
vas-y.
Après, les sites de rencontre, comme je disais, ça crée l'attirance et ça amène à la rencontre. Un site de rencontre, voilà. Et l'amour, il se crée au moment de la rencontre. En fait, c'est juste le moyen de parler à une personne. C'est mieux pour les personnes qui veulent pas parler dans la rue, comme ça. Le sourire, le regard, comme tu dis, ça se fait pas d'un seul coup. L'amour, il peut venir par la suite. C'est fait pour ça.
Bah, ça naît souvent d'un premier regard. Après, c'est chacun ses avis, c'est moral là-dessus, mais c'est juste dommage, quoi, que tu raconteras à tes enfants. Bah,
oui,
soit IP, puis soit.
La photo
m'a paru beau sur la photo, donc je me suis dit, tiens, je vais envoyer un message, quoi. C'est pas la même chose que j'ai renversé ses livres à la bibliothèque. Et...
Mais c'est très vieux, j'ai allé ramasser.
Vas-y, Antoine.
Je pense c'est très vieux. Enfin, pas le concept des rencontres, mais ça rejoint un peu parce que il y avait les relations épistolaires à l'époque. Et finalement, ça rejoint un peu. On est séduit par l'écrit au début. Après, on trouve des points en commun, on se rencontre. Enfin, ça commence par
l'écrit. T'as écouté Alexandre ou pas? Parce que c'est vraiment intéressant. Non, je demandais à Alexandre s'il avait écouté ce qu'avait dit Antoine. Parce qu'il parlait que c'était une simple évolution, par exemple, des relations épistolaires. Où à l'époque, on essayait de voir si ça marchait, de séduire, voilà. Antoine ?
Après, il y a aussi une évolution, une création par les nouvelles technologies, justement. Parce que par exemple les relations épistolaires, les deux correspondants se connaissaient déjà et essayaient d'approfondir leur relation par la voie épistolaire. Alors que là, c'est plutôt rechercher des gens, c'est-à-dire en étant plutôt individualisé.
Dans le sens inverse, du coup.
Et en même temps, par un téléphone ou une application, essayer de trouver quelqu'un d'autre. Pas forcément essayer de mieux connaître la personne, mais essayer de la trouver simplement. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne évolution que ça.
Puis ça a plus le même charme. Voilà, une lettre, t'envoyais une lettre. C'était charmant,
mais
tu recevais ça.
Peut-être que t'as juste du mal à accepter que Internet, ça soit partout maintenant.
Bah non, j'ai 17 ans, je le vois le monde. Je le reconnais, Internet. Mais c'est juste que Internet, c'est pas humain en fait. C'est juste le message que je voulais faire passer.
Bah, dans notre société,
c'est des algorithmes, c'est des chiffres.
Oui, mais ce qu'on en fait, ça nous représente, donc dans un sens, c'est nous.
Ça te représente, mais ça te donne juste. Tu veux juste montrer l'image parfaite de toi sur un message.
Oui, non, je suis d'accord.
Bah, on en revient un peu à ce que disait peut-être Radio-Cha au début, le culte du corps, quoi. Même si c'est culte moral et intellectuel.
Il a toujours été là, un peu le culte du corps, je pense. Même si c'était pas par internet, c'est toujours comme ça, on veut toujours plaire, être un peu au-dessus. Enfin, c'est l'humain qui est comme ça, je pense.
Après, c'est vrai que depuis l'explosion d'Internet, le culte du corps avec les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram est devenu beaucoup plus important.
C'est l'élément négatif.
De rendre sa vie plus belle.
Oui.
Puis même, on
se cacher derrière les photos.
Des gens plus beaux que nous. Nous, les filles, moi en tant que fille, je sais qu'on est plein à se baser sur des top modèles, des personnes qui ont des femmes, des femmes qui ont des formes
généreuses,
très belles,
vraiment l'amour,
et on se dit ouais, j'aimerais bien être comme elle, et du coup on se montre que quand on est en valeur, quoi.
On devient un peu du sujet. C'était plus sur l'amour sur internet et pas le culte du corps sur les réseaux sociaux.
Ce que vous dites sur les réseaux sociaux, justement, le culte du corps, c'est pas que dans l'amour, c'est toute la société qui est une société de l'image. Où on a des images de partout, c'est lié aux technologies justement, et les réseaux sociaux passent forcément par ces images. Alors moi personnellement, je pense pas que ce soit une très bonne chose forcément de s'arrêter aux images, de multiplier les découvertes. Justement, découvrir des gens, c'est bien, mais il faudrait les connaître, et justement je pense qu'on peut toujours, en utilisant les réseaux sociaux, approfondir les relations. Et le problème n'est pas en soi les sites ou les réseaux sociaux, mais c'est ce qu'on en fait.
C'est l'image qu'on montre de nous.
Exactement. Alyosha.
Oui, par exemple, en parlant des couples qui ont été créés grâce aux réseaux sociaux et au ce problème du culte du corps, est-ce que il y a plus de personnes dont le couple a été créé grâce à ces images? Hein, en se disant, il a mis une fausse photo de profil, mais il est intelligent, il est sympathique, il est attachant. Voilà. Et d'autres qui ont été justement brisés parce qu'ils s'attendaient à une personne avec un charisme plus ou moins observateur, mais voilà.
Après, sur la photo,
l'importance de l'image en général qui a évolué avant.
Ouais. Après, sur la fausse photo sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un peu passé parce qu'aujourd'hui, je connais pas trop, mais je crois que Tinder c'est relié avec, c'est pas relié avec Facebook,
Instagram.
Avec le Voilà, donc quoi qu'il en soit, tu vas tout de suite voir si l'image est vraie ou fausse. Tu vas pas commencer à t'amuser à faire un faux compte Instagram.
Après, Tinder,
vaut mieux être soi-même. Comment?
Par rapport aux autres sites de rencontres, les sites de rencontres, il y a plus de chat, etc. Mais Tinder, le commencement, c'est vraiment sur l'image. Tu choisis physiquement, oui, non, oui, non. Alors que sur Mythique, par exemple, tu peux avoir des centres d'intérêt qui peuvent être communs, tu peux avoir des choses comme ça.
De plus en plus, Tinder, je crois, se base aussi sur le descriptif.
On t'entend carrément pas, je crois.
Ah, c'est que de plus en plus, Tinder utilisait les descriptifs en plus des images.
Ça dépend ceux qui, c'est comme disait Antoine, ça dépend ceux qui les utilisent, quoi.
Bah comme tous les sites de rencontre, je pense.
Ouais.
Jérémy, vas-y.
Ouais, bah je parle pas trop ce soir parce que je suis malade.
Pas de soucis,
je suis un peu dans le mal, mais.
C'est déjà très cool que tu sois venu.
Bah en fait, moi je trouve ça finalement assez beau. Enfin, pour essayer de conclure, je trouve ça assez beau de pouvoir. Enfin, qu'il y ait maintenant plusieurs personnes qui se connaissent pas, qui sont pas dans la même ville, qui qui auraient sûrement pas pu se rencontrer sans ces sites de rencontre, qui puissent se rencontrer et que ce soit qui puissent vivre ensemble grâce à ça.
C'est vrai que c'est une forme de beauté différente que celle
que ça marche
plutôt, mais c'est vrai que si ça marche, ça peut être une belle histoire aussi.
Ça peut.
On va passer aux questions, je pense, parce qu'il est déjà 45. Alors, les questions tour de table, on donne des questions un peu sur l'actualité, on demande le point de vue de chacun. On va commencer par les drogues. Depuis 2018, les trafics illégaux sont entrés dans le calcul du PIB. Alors, on s'est dit que c'était un peu une question un peu comptable, donc un peu experte. On va peut-être plus poser une question sur le cannabis. Pour ou contre, la légalisation du cannabis, c'est un grand débat en France. On va te poser la question pour demander l'avis. Et donc, Antoine, je te laisse commencer.
Donc, personnellement, je suis pour la dépénalisation du cannabis d'un point de vue administratif, parce que je crois que ça fait énormément d'heures de travail pour les instances judiciaires, notamment. C'est du travail inutile, parce que actuellement, le cannabis est, enfin, la consommation de cannabis est pénalisée. Et je crois qu'il y a presque une hypocrisie sur ce sujet, parce que il n'y a aucune peine de prison ou très peu de peine de prison pour consommation de cannabis. Par contre, voilà, il y a beaucoup de procédures. Mais je suis totalement contre la légalisation. Qu'on puisse acheter du cannabis comme ça, c'est assez. Enfin, qu'on pourrait acheter du cannabis comme ça, c'est assez assez effrayant, parce que c'est quand même une drogue. C'est assez. Alors, évidemment, tout est une drogue. Certains disent que la cigarette est une drogue. Mais la cigarette,
c'est une drogue, hein. Non, mais c'est la nicotine.
Oui,
est une drogue.
La nicotine a des effets moins dévastateurs que le cannabis, et surtout sur les adolescents. Je crois que les adolescents, c'est les plus sensibles, entre guillemets, au cannabis. D'une part parce que c'est de forts consommateurs, et d'autre part parce que leur cerveau, notamment, est en formation. Après, je suis pas expert sur le sujet.
Exactement, jusqu'à 18 ans.
Jusqu'à 25.
D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais le gouvernement a pris un peu le chemin inverse de ce que tu disais et a augmenté les amendes en cas de consommation de cannabis qui passerait à 200 euros, il me semble.
Ouais, il y aura plus d'amendes, justement, et moins de procédures.
Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est
une dépénalisation pour.
D'accord, ok. Antoine,
alors.
je précise qu'on a des Antoine.
Alors, moi, je pense que. Pourquoi pas la légaliser? Parce que, alors, par exemple, en Hollande, on regarde. Il y a beaucoup moins de fumeurs qu'en France, et c'est étonnant alors que c'est légalisé. Mais bon, ça va revenir au même. Finalement, il y aura plus de trafic sur autre chose. Ils vont ramener plus de coke, je pense, un truc comme ça.
Oui, exactement. Ça dévie sur d'autres drogues, oui, voilà, peut-être plus dur même.
Du coup, ça revient au même finalement, parce qu'il y aura tellement de déviations dans d'autres drogues, ils trouveront toujours quelque chose à trafiquer. Bon, le seul point positif, c'est que ça va faire gagner beaucoup plus d'argent à l'État.
Ouais. Peut-être.
Peut-être, ouais. Je sais pas si les amendes, ça fait plus. Parce que pour les consommateurs, s'ils veulent fumer, ils en trouvent facilement, quoi. Enfin, je veux dire.
Ouais. Quoi. Sur la vie, dépénaliser, légaliser, je sais pas, j'ai pas franchement d'avis, donc je vais plutôt parler sur le PIB. Je trouve ça surprenant de la France, parce que la France, ça fait quelques années que les pays, notamment l'Angleterre, le comptaient dans leur PIB, alors que la France refusait de le faire. Et c'est bizarre qu'ils aient changé d'avis. Je pense que c'est juste pour gonfler des chiffres. C'est des trafics qui sont
une harmonisation plutôt à l'échelle
européenne. Une harmonisation, mais c'est illégal en France, c'est illégal. C'est illégal, donc c'est bizarre que ça rentre dans le PIB. C'est une création de richesse, mais tout est une création de richesse, quoi. Tu vas pas non plus mettre dans ton PIB la tarte que tu vas faire chez toi, quoi. Parce que
c'est
après,
exactement les cours d'économie.
C'est quoi?
C'est les cours d'économie de première, on voyait un peu les deux aspects.
Je suis en scientifique.
Non,
mais voilà, donc je trouve ça bizarre. Après, bon, bah tant mieux pour la France, hein, ça va gonfler les chiffres, ils vont repasser devant le Royaume-Uni, et puis bon, tant mieux, quoi.
On a refusé la prostitution, je crois.
Après,
ouais, vas-y, Liam.
Parce que.
Manon, levez la main depuis vraiment longtemps, je suis désolé. Vas-y, Manon.
C'est que, justement, comme mon voisin.
Vas-y, vas-y.
Mais il y avait un peu mal élevé, c'est pas grave. L'émission est conviviale. À qui on fait Pierre Feuille-Ciseau, je pense que c'est mieux.
C'est que les voisins de la France le comptaient, et justement pour le PIB mondial, c'est intéressant de comparer avec des valeurs similaires. Parce que forcément, si la France n'a pas les mêmes valeurs dans son PIB que d'autres pays, il est normal qu'il soit moins élevé.
Pour que la France soit devant ou derrière le Royaume-Uni, tout ça pour une question de trafic de drogue.
Je suis pas déjà vachement contesté, parce que ouais. La question environnementale aussi qui se pose, pour parce que la France est peut-être descend peut-être dans le classement, mais ouais, en tout cas
quand on voit un pays comme l'Inde
respecte plus
quand on voit un pays comme l'Inde qui lui je crois qu'il compte le trafic de drogue et qui en plus de tout écologiquement mais tue le monde. Après c'est leur développement
c'est à partir du moment où un pays est développé qui se met à penser à la question environnementale. Manon.
Oui, moi je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Alexandre. Tu as dit que ça a été une histoire de gonfler les chiffres, voilà. Mais ça va servir à rien parce que ça va juste le gonfler de 0,1% le PIB.
Ah bon?
J'ai regardé.
Oui,
ouais.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc, je ne sais même pas à quoi ça sert.
2,3 milliards d'euros.
De quoi? 2,3
milliards d'euros par année de trafic illégal.
Ouais.
Pourtant, on est un des pays les plus consommateurs.
On est le pays le plus consommateur. La France repasse quand même pas devant la Grande-Bretagne. Pour ça.
Ouais. Par rapport à toutes les productions, tous les biens, les services, tout ce qui est compris dans le PIB, c'est franchement rien.
Alors, dans ce cas-là, pourquoi l'intégrer ?
Harmonisation.
Bah, ouais, la question.
Il faut que les critères soient les mêmes selon les pays. Et que ce soit une.
Je veux dire, heureusement que c'est que 0, je sais pas combien.
C'est à la France de dire.
Ouais, je pense que la France aurait pu dire non de façon morale. Oui. Après l'harmonisation, vaut mieux avoir la morale pour soi et paraître peut-être un peu moins bon. Voilà.
C'est hypocrite de parler de morale en le comptant pas, alors que justement on est un des pays les plus consommateurs.
Bah oui, mais la France elle le reconnaît pas. Si elle reconnaissait qu'elle était consommatrice, si elle le reconnaissait,
elle reconnaît une part en dépénalisant.
Mais elle dépénalise pas réellement.
Adèle.
Mais d'ailleurs, on disait qu'on était un des plus gros consommateurs. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Europe, les jeunes sont les plus gros consommateurs, les jeunes français sont les plus gros consommateurs.
Ouais.
Les plus.
Ouais, y a un problème aussi là-dessus. Hein.
Jérémy.
Sinon, pour revenir à la question de la légalisation, dépénalisation, tout ça, bah, moi je suis plutôt pour la légalisation, même si elle est régulée, c'est ça le mieux, je pense. Et bah, pour plusieurs raisons, par exemple des raisons économiques, sanitaires, des raisons sanitaires surtout, ouais. Parce que. Ce serait l'État qui contrôlerait le marché et du coup qui fixerait
des quotas,
des plants de cannabis beaucoup mieux contrôlés plutôt que des dealers qui plantent eux-mêmes et qui on sait même pas ce que c'est. Et aussi des raisons économiques. À la place d'un drogué, je préférerais donner mon argent à l'État plutôt qu'un dealer qui s'en met plein les poches.
Ouais.
Enfin,
Antoine.
Mais justement, le problème avec la légalisation, c'est un peu le même problème qu'avec les cigarettes, c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que si on légalise, qu'on fait des produits entre guillemets de qualité, mais qu'on les paye cher pour les rentabiliser, il va quand même y avoir des trafics parallèles avec des produits qui seront deux fois moins chers que ceux vendus légalement, disons. Et ça fera comme les cigarettes, des fausses cigarettes, des produits beaucoup plus nocifs. Et alors là, avec le cannabis, ce sera encore pire. Donc je pense qu'au final. Sur les trafics, la légalisation, c'est presque une défaite. On n'a pas réussi à endiguer le trafic, donc on légalise tout. Et voilà, c'est une solution de repli, oui, mais je ne pense pas que ce soit la solution.
Bah, la majorité, je pense que la solution, ce serait d'endiguer le trafic. Est-ce que tu penses que c'est possible actuellement?
Je pense qu'il y a des solutions plus intelligentes. Passer d'une part par la prévention, en même temps...
Par les sanctions aussi, après.
Oui, évidemment, par les sanctions, oui, mais les deux vont de pair.
La prévention serait plus aisée si justement le cannabis était légalisé. On voit que les produits légalisés sont bien plus comment dire J'ai oublié mon mot. Bon,
attractif.
Non, c'était pas ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave.
Je pense que c'est un argument de facilité de dire que parce qu'il n'est pas légalisé, c'est plus compliqué de faire des campagnes de prévention. La prévention. Oui. C'est vrai qu'elle est très peu présente contre le cannabis et contre la plupart des drogues d'ailleurs.
Moins que l'alcool en tout cas.
Bah bien oui, moi personnellement je vois pas de prévention anti-cannabis.
Si, il y en a quand même.
Je pense qu'il en existe, mais vraiment très peu.
Au code d'ailleurs on apprend que le cannabis c'est mauvais pour la conduite, donc c'est déjà une prévention.
C'est vrai.
Deuxième question. Vu qu'il reste pas beaucoup de temps, je propose qu'on dise oui ou non. C'est la deuxième question, c'était sur les JO. Ouais. Donc je pense
Russie,
que plutôt.
Il faudrait peut-être un peu rappeler les faits parce que c'est un.
Ouais. Du coup, la Russie.
Oui, non. Un petit tour de table, oui non.
Ouais. Oui non. Du coup, il y a quelques pendant les derniers JO, la Russie a eu des problèmes avec le dopage. Donc le CIO, je crois, a interdit la Russie. Donc tous les athlètes russes, même ceux qui n'étaient pas concernés, de participer au prochain JO en Corée du Sud,
Donc voilà. Arrive d'ici quelques jours.
Ouais, dans, qui commence vendredi, non ?
Donc en fait, voilà, des athlètes qui n'étaient pas...
qui n'étaient pas concernés, mais qui sont interdits de participer aux Jeux. Donc
sous la bannière de la Russie, ils peuvent se présenter sous un pays neutre.
Ouais.
Mais ils ne sont pas sur leur propre nationalité.
Donc ils ne participent pas du tout aux JO.
Non, ils ne participent pas.
Diam, du coup, ton point de vue. Enfin, après, voilà, si, si t'as pas d'avis, c'est vrai que c'est une question un peu particulière.
mais dans ce cas-là, oui ou non. Oui, c'est pour
bah oui, ah oui, excuse-moi. T'es pour ou contre l'exclusion de la délégation russe des JO, de tous les athlètes ? C'est vrai que si on pose pas de questions, c'est un peu délicat de répondre.
Ouais, c'est vrai. Les petits vides, nous, essayer de temps en temps.
Directement, à chaud comme ça, je dirais pour.
Ouais. Ok, d'accord. Alyosha ?
Plus ou moins, je sais pas trop. C'est-à-dire que, yes, comme je suis pas trop un sportif ni que je m'intéresse au sport, que la Russie soit dans les JO ou pas, personnellement, je m'en fiche un peu. Sans vouloir être insultant envers la Russie.
La Russie est un grand pays des sports d'hiver. En plus, c'est vraiment économiquement, je suis pas sûr que ce soit top pour eux.
Jérémy,
J'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais je trouve ça quand même plutôt intéressant de. Bah en fait, c'est le fait que ce soit une affaire d'État. Il paraîtrait que ce soit vraiment contrôlé par le Kremlin qui ait mis en place ce dopage. Et du coup, c'est intéressant que la CIO ait frappé un grand coup pour...
mais de là à exclure
oui,
des...
Oui, c'est vrai que c'est un peu radical, mais au moins, ça frappe les esprits.
Oui, c'est vrai. En tout cas, oui, c'est clair que ça...
Même
ça
si peut, les athlètes peuvent toujours se présenter...
sans manière, oui. Manon.
Moi je sais pas trop, mais je dirais plus oui en fait, parce que bah voilà, c'est les JO, ils ont pas besoin, enfin voilà, ils ont pas le droit de se doper, ils l'ont fait, enfin pas tous certes, mais ouais, non, je dirais oui.
D'accord.
Moi aussi plutôt pour, parce que on enlève des prix etc pour le dopage, donc voilà, pourquoi changer pour. Okay.
Moi je suis plutôt contre pour justement le fait d'avoir élargi cette sanction à tous les athlètes, même ceux qui n'étaient pas concernés. C'est peut-être un peu aussi un acte politique, on peut voir ça. Enfin, en tout cas, c'est peut-être comme le Kremlin se défend, je ne suis pas pro-Kremlin, mais voilà. Dernière question, est-ce qu'on a le temps pour l'augmentation?
Non, mais du coup, on n'a pas fini le tour de table, il y a trois.
Ah oui, mais Antoine ne voulait pas parler, Antoine Attec, en tout cas.
Complètement vas-y. Injuste, du coup, pour les athlètes. Enfin, pour les athlètes.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, si on y pense.
Mais s'ils peuvent se présenter sous une autre bannière. Comme ça, ça punit uniquement la Russie.
Qui veulent se battre pour leur. Enfin, ils sont toujours battus pour leur pays, pour. Ils sont toujours allés pour leur pays, du coup là je pense que...
Oui, mais peut-être qu'ils pensent que leur pays les a trahis. Du coup ça punit uniquement la Russie, et les autres ils peuvent quand même faire les JO.
Mais quand même injuste du coup pour ceux qui voulaient se battre pour leur pays et qui sont innocents.
Ouais, c'est vrai. Bon bah du coup on aurait pu poser une dernière question sur l'augmentation du prix de tabac, mais ouais. Je suis pas sûr qu'on ait le temps.
Un très rapide
tour de table.
Juste un oui ou non, sans justification. Allez, allez, bah oui.
Pour ou contre ? Pour ou contre l'augmentation du paquet de tabac à 10 euros d'ici 2020, Antoine ?
Oui et non.
Oui et non.
L'artiste.
Bande de fada.
C'est précis.
Clairement oui.
Pour.
Ça sert à rien.
Pourquoi pas ?
Non.
Contre, parce que ça sert à rien.
Pour, parce que je pense que justement ça...
Ça va compter positif. Beaucoup sur des adolescents.
Augmentation de trafic.
C'est vrai, ça pêche, trafic.
Bon bah...
Non.
C'est ouais, on va pas faire du rab.
Merci,
hein.
Beaucoup.
Ils doivent rentrer à l'intérieur.
À bientôt.
Salut. C'est Antoine Attec sur Radio.
N'oubliez pas de nous écouter. Hein.
C'était à Paris, à Valence.
Dédicace à Simon.
Merci beaucoup.
Pas de coup de cœur, pas de coup de gueule, c'est bon.
Non.
Ah oui, dédicace à Fabi.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Bonne soirée.